avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette première édition de Sahel Plus en cette nouvelle année 2016. Aujourd'hui, au sommaire, nouveau gouvernement en Guinée qui a également fêté la fin du virus Ebola. Au Niger, l'opposition est satisfaite des corrections du fichier électoral demandé par l'OIF. Conséquence de la prorogation de l'état d'urgence au Mali. Et nous ferons un petit détour par le Tchad pour faire un point sur l'économie. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par la Guinée qui vient de se doter d'un nouveau gouvernement. Le président Alpha Condé a formé une équipe ministérielle de 33 membres. 12 ministres de l'ancienne équipe sont reconduits. Les détails avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Un seul de l'opposition, Mohamed Tall de l'UFR, est nommé ministre de l'élevage. Pour le reste, c'est un gouvernement rajeuni, mais surtout féminisé avec cette nomination de femmes à des postes stratégiques. Les départements de l'action sociale, de l'environnement, eau et forêt, les travaux publics, du plan et coopération internationale, de l'agriculture, des affaires étrangères et guinéens de l'étranger, et surtout celui de l'économie et des finances sont confiés aux dames. Au total, 14 nouveaux cadres sont nommés ministres de la République. 16 de l'ancienne équipe sont sortis alors que, parmi ceux qui restent, certains sont confirmés à leur poste, d'autres occupent désormais la tête d'autres départements. C'est le cas de Maître Abdoul Kabele Camara qui quitte la défense pour la sécurité nationale. 2 jours avant, Alpha Condé avait nommé l'ancien premier ministre Sidya Touré haut représentant du chef de l'État et le Sénégalais Jack Diouf, conseiller spécial du président de la République.
Et nous restons en Guinée pour revenir sur un événement majeur. Le 29 décembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré officiellement la fin de l'épidémie Ebola. Une annonce accueillie dans la joie et qui a suscité plein d'espoir, comme nous le raconte notre correspondant Zakaria Camara.
Denaonare Ebola la Guinée la ni. Giancarlo Mento Ebola Baraban la Guinée.
Ebola free, fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. L'annonce est faite dans les principales langues du pays par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé.
Ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né et dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli.
C'est le soulagement en Guinée, mais Mohamed Bellucine recommande la prudence.
Nous savons que le virus est redoutable et capable de résurgence. L'histoire récente dans un pays voisin est venue nous le rappeler. Encore 90 jours de surveillance épidémiologique renforcée. Le maintien d'une capacité d'investigation solide.
Ebola déclaré free en Guinée. Il faut maintenant renforcer les mesures et dispositifs de prévention, a annoncé à son tour le docteur Sakoba Keïta, coordinateur national de lutte contre Ebola.
Nous devons entreprendre la poursuite de cette vaccination à partir du mois de janvier pour les contacts des personnes guéries qui n'ont pas bénéficié de ces séances de vaccination.
C'est en décembre 2013 que les premiers cas sont signalés dans le sud du pays. 2 ans après, on compte plus de 2500 morts pour près de 4000 cas recensés. Dans les rues de la capitale, on exprime toute sa joie.
Je crois que c'est un ouf de soulagement qu'Ebola soit parti. Dieu merci.
Donc à chaque fois qu'on partait déposer des CV pour chercher du travail, on dit que c'est fermé pour le moment à cause de Ebola. Je suis vraiment content du fait que maintenant, tout va maintenant marcher.
J'espère que les autorités prendront toutes les mesures nécessaires afin de prévenir ce genre de maladie.
Ça va encore permettre à nos parents, à nos familles, à nos proches de pouvoir voyager à l'étranger.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou. Direction le Niger à présent. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, partis dans le pays sur demande de la CENI pour auditer le fichier électoral, ont rendu leur rapport mardi. Il ressort de celui-ci de nombreuses anomalies, comme par exemple plus de 320 bureaux de vote sans électeurs, près de 40 000 mineurs inscrits et plus de 234 000 inscrits sans lieu de naissance ou 16 000 autres sans date de naissance. Le rapport fait état également de plus de 25 000 doublons. Pour tout cela, l'équipe du général Siaka Sangaré, le chef de la mission des experts de l'OIF, a recommandé une correction dans l'immédiat, faute de quoi le fichier ne peut être jugé bon. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le fichier électoral de 2015 qui a été soumis à notre contrôle peut être valablement utilisé et fiable pour la tenue des élections, mais sous réserve, j'insiste là-dessus, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations à effet immédiat.
Et les recommandations, les voici.
Il y a l'extraction et la radiation des électeurs mineurs. On a trouvé 16 000 et quelques. Il faut les extraire et absolument, on ne peut pas faire voter ceux qui sont mineurs. Sinon, c'est une violation flagrante de la loi. Ensuite, il y a la confirmation et la radiation des multiples inscriptions. Il y a la suppression des 323 bureaux. Là, nous l'avons déjà pratiquement fait parce que, comme c'est des bureaux qui ne contiennent pas d'électeurs, pour nous, ce ne sont même pas des bureaux de vote. Ensuite, création d'un identifiant. Je l'ai dit, ça, il faut le faire rapidement. Ensuite, reprise de la numérotation des bureaux de vote et également des électeurs. Et a publié, après le traitement des anomalies, en fait, le répertoire des bureaux de vote par tous les moyens. En mettant le répertoire sur Internet, cela est un gage de transparence et également permet aux candidats de pouvoir vérifier l'existence et le contenu de chaque bureau de vote. Ensuite, publier les listes électorales sur Internet, oui, et envoyer par SMS les références des électeurs. Prévoir un niveau de sécurité pour l'authentification des cartes d'électeurs.
Pour la majorité, il n'y a rien de nouveau par rapport au premier audit conduit par un cabinet nigérien. Mohamed Bazoum, président du parti au pouvoir.
L'audit a confirmé un peu ce qu'on savait, qui avait été déjà repéré par l'autre audit national que nous avons mis en place. Vraiment, je voudrais me réjouir de ces conclusions et je crois que nous sommes totalement prêts désormais pour faire le travail de la CENI et souhaiter que tout cela se passe vite, de façon que nous tenions les élections aux dates qui sont programmées.
La satisfaction est totale du côté de l'opposition, dit Ousseini Salatou, un des porte-parole.
Sous réserve des recommandations qui ont été faites, nous sommes prêts pour les élections. Dieu merci. Nous pensons que ce que nous avons demandé, nous ne l'avons pas demandé pour l'opposition, nous l'avons demandé pour le peuple nigérien. Aujourd'hui, vous avez remarqué dans la salle, que ce soit acteur politique, que ce soit acteur de la société civile, que ce soit citoyen tout simple. Tout le monde est réconforté par le travail qui a été fait.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Comme en 2010, c'est l'opposition nigérienne qui a exigé la vérification du fichier électoral par la francophonie. L'opposition est-elle satisfaite et va-t-elle se présenter aux élections ? Pour le savoir, Idrissa Sedoudia a contacté le porte-parole de l'opposition nigérienne, Ousseini Salatou.
Notre réaction au niveau de l'opposition, c'est une réaction de satisfaction. Satisfaction à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons, vous rappelez, rejeté ce fichier parce que nous avons estimé que ce fichier-là n'est pas stable, ce fichier n'est pas fiable. À travers ce doute-là, effectivement, l'audit a révélé que ce fichier n'est pas fiable sur la base des anomalies qui ont été relevées, qui sont extrêmement multiples. La deuxième satisfaction porte sur le fait que nous avons dit qu'on peut bel et bien auditer ce fichier sans que les délais constitutionnels ou les délais légaux ne soient entamés. Ce qu'avait refusé le gouvernement parce que le gouvernement avait pensé que l'opposition était en train de faire du dilatoire pour l'amener dans une période de transition. Aujourd'hui, le fichier a été audité et les délais constitutionnels n'ont pas été entamés. La preuve, le président de la CENI a dit que, plaise à Dieu, ils vont respecter les délais constitutionnels, les corrections vont être faites et les décisions des cartes vont commencer en temps opportun.
Comment expliquez-vous ces anomalies ? Est-ce le résultat d'une tentative de fraude ou tout simplement des raisons techniques ?
Il faut reconnaître qu'à un certain niveau, il y a des raisons techniques. Honnêtement, il y a des raisons techniques. Et par rapport aux gens qui n'ont pas de lieu de naissance ou d'acte de naissance, on peut supposer que fait-on un nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne un exemple. Quand l'informaticien vient, l'agent de saisie, il prend un village, il met le chef du village qui est né dans tel village, et les autres, il ne met pas qu'ils sont nés dans le même village, il fait des tirés. Donc ça, on peut corriger. Mais il y a des situations où ce sont véritablement des tentatives de fraude, notamment les 323 bureaux de vote.
Et maintenant, tout est réglé, vous allez aux élections sans problème.
Le responsable de l'audit, le général Sangaré, a bel et bien dit que le fichier est acceptable et fiable sous réserve des corrections. Et c'est pourquoi, pour paraphraser nos amis de Burkinabés, il dit c'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce qu'on attend que ces corrections soient faites. Nous sommes optimistes, nous pensons que ces corrections vont être faites. Nous sommes véritablement optimistes parce que nos gens font partie des observateurs qui sont en train de faire ces corrections. Et même ce matin, nous ont dit que ces corrections ont commencé. Et nous pensons que les conditions, en tout cas en ce qui concerne les fichiers, les conditions vont être réunies pour que nous puissions partir aux élections dans des conditions acceptées et acceptables par tous.
Hussaini Salatour, porte-parole de l'opposition nigérienne, il était joint à Niamey. Et maintenant, cap sur le Mali. L'Assemblée nationale malienne a voté la semaine dernière à l'unanimité un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 31 mars 2016. Modibo Dembélé a joint Mondi Ndiaye, troisième vice-président de l'Assemblée nationale et membre de l'opposition parlementaire.
L'état d'urgence est une mesure exceptionnelle dont le budget est de pouvoir assurer mieux les personnes et leurs biens. La mesure doit, selon nous, faire l'objet d'une mise en œuvre très rigoureuse. Et c'est ça un peu pour nous l'élément le plus important parce que les explications que le gouvernement avait données quand le président a décrété l'état d'urgence nous ont paru un peu pas avec beaucoup de rigueur, ce qui fait que nous avons pensé qu'il est bon qu'une fois que c'est une mesure exceptionnelle, que cette mesure doit être appliquée dans toute sa rigueur.
Est-ce que cela signifierait que vous êtes pour une fois de plus d'accord avec cette mesure gouvernementale?
Oui, nous avons donc voté la mesure gouvernementale en termes de prorogation, parce que cette prorogation revient à l'Assemblée nationale. On l'a donc prolongée hier soir. Et nous sommes d'accord parce que nous sommes conscients que l'État a des difficultés en matière de sécurité. C'est une mesure salutaire.
Mais cet état d'urgence décrété par les autorités n'est pas sans conséquence sur les habitants. Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Pourquoi l'état d'urgence? Il y a eu des messages, il y a eu des informations inquiétantes. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé dernièrement dans la ville de Bamako, lorsqu'on sait ce qui s'est passé à Sévaré, lorsqu'on sait ce qui s'est passé à Paris, lorsque vous êtes informé, vous prenez des dispositions. Ce n'est pas du tout pour restreindre les libertés des populations, mais c'est plutôt pour contribuer à mieux les sécuriser.
Depuis, les activités sont réduites, comme le témoignent les personnes interrogées dans la ville de Gao.
DJ Izé, j'anime à Belair annexe la grotte. Dès qu'ils ont annoncé l'affaire de l'état d'urgence, rien ne marche depuis. Oui, au niveau de la boîte, on a même fermé, hein. Ça ne marche plus. Personne ne part pas là-bas. Nous comptons totalement pour bien donner le 1er janvier, Inch'Allah.
C'est DJ Isaac Morco, DJ de Balani. La journée du 8h à 18h, souvent on gagne 25 000 francs et 50 000, surtout si à la Hanana. Le jour même que le jeune mari même va s'installer. Demain aussi, les filles vont porter l'uniforme.
Et tout ça maintenant, c'est fini?
C'est fini comme ça. Depuis qu'ils ont annoncé le truc, donc ça nous a choqué vraiment. Parce que vraiment, on ne sait pas quoi faire. Donc on va lui porter les animations jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Al-Qaïda, là, c'est partout. Malgré que nous sommes en souffrance, hein, mais vraiment, c'est bon.
L'objectif visé par les organisateurs de la semaine artistique et culturelle au niveau des écoles dans le cadre du retour de la paix a été amoindri du fait de l'état d'urgence. Boubacar Al-Bachar, conseiller au centre d'animation pédagogique Cap de Gao.
Pour que
la sensibilisation puisse gagner les parents même. UNICEF a voulu réellement, à travers l'éducation, l'académie, les CAP, organiser vraiment une semaine artistique et culturelle interscolaire. L'état d'urgence nous a un peu freinés. Sans quoi, on aurait dû faire une grande fête à la Maison des Arts et de la Culture où tout le monde se regroupait. Mais l'état d'urgence a fait que vraiment notre objectif a été un peu amoindri parce qu'on était obligé de passer école par école, faire ces manifestations dans des situations qui ne sont pas réellement adéquates.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Nous sommes au Tchad pour finir l'émission. Après une analyse de la situation socio-économique que traverse le pays, l'Union des syndicats du Tchad, principale centrale syndicale des travailleurs du secteur public, a fait des propositions pour une sortie de crise. Propositions contenues dans un mémorandum publié en ce début d'année. De Djamena, la correspondance d'André Komadjingar.
Ce document de 23 pages fait suite aux propos contradictoires du président tchadien sur la situation socio-économique du pays. Le 18 décembre 2015, Idriss Déby Itno a déclaré que tous les chantiers arrêtés à cause de la conjoncture financière seront relancés en 2016. C'est une opportunité d'emploi pour les jeunes, dit-il, qui broient du noir. Le 30 décembre 2015, soit 2 semaines après cette sortie médiatique pleine d'espoir, Idriss Déby Itno recule. Il demande à son gouvernement de geler l'intégration de jeunes diplômés à la fonction publique pour 3 ans. Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2015, il attire l'attention de ses concitoyens en ces termes.
L'année 2016 sera encore difficile. L'insécurité qui s'est installée dans la sous-région va continuer à entraîner dans son siège des perturbations quant à nos échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier le Cameroun, le Nigeria et la Libye, avec pour conséquence directe la hausse des prix des denrées de base et le dérèglement généralisé de notre économie. Les perspectives pour la hausse du prix du pétrole restent faibles et nous devons nous préparer à cela. J'invite fortement le gouvernement à accélérer la diversification de l'économie, notamment la promotion de l'agriculture et de l'élevage et attirer des investissements privés pour créer d'emplois en faveur des jeunes et transformer ainsi notre économie.
Pour décrisper cette crise sociale, l'Union des syndicats du Tchad UST exige du gouvernement un audit exhaustif sur la gestion de la douane et du trésor public depuis la nomination de son frère Kadé Salah Déby Itno à la tête de cette institution jusqu'au jour de son départ et le ramener devant la justice tchadienne. La dissolution de la direction générale des grands travaux présidentiels qui constitue selon l'UST une source officielle de détournement de deniers publics. La nomination à la tête de régie financière des cadres compétents sans considération familiale et politique. Le document précise par ailleurs que les travailleurs n'entendent plus voir leurs conditions de vie et de travail se dégrader et leur pouvoir d'achat, déjà précaire, continue à baisser. Ils ne sont pas prêts non plus à payer le prix de la mauvaise gouvernance et rejettent la politique de deux poids, deux mesures qui se caractérise par l'impunité pour les uns et la rigueur pour les autres. Ils décident enfin de s'opposer désormais aux nominations qui ne respecteraient pas les critères. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Sekouba Diabaté et son Badenia. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Bye.